Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Israël-Iran, un conflit perdant-perdant et europessimisme, un mal français. Nos débatteurs ce dimanche, Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour,
avocate, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne eurodéputée, Thomas Gobard, bonjour.
Bonjour, Hervé Gardette.
Historien, directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, c'est votre dernier ouvrage chez Talendier. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au journal Le Monde, vous avez publié chez Stock en fin d'année dernière « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». Et puis Brice Couturier, bonjour.
Bonjour, Hervé Gardette.
Collaborateur à l'hebdomadaire Le Point, l'entreprise face aux revendications identitaires, c'est votre dernier livre au PUF et ça a été publié en 2023. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les résultats du dernier Eurobaromètre, une vaste enquête menée auprès des citoyens de l'Union européenne à quelques semaines des élections de début juin, enquête qui fait apparaître la France en tête d'un classement, celui du pays le plus pessimiste des 27 quant à l'avenir de l'Europe. Alors pourquoi un tel europessimisme? Nous en débattrons. Et tout de suite, notre premier sujet.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Ces derniers jours ont été marqués par une dangereuse escalade, en paroles et en actes. Un mauvais calcul, une mauvaise communication, une erreur pourrait conduire à l'impensable. Un conflit régional généralisé qui serait dévastateur pour toutes les parties impliquées et pour le reste du monde. Ce moment de danger maximal doit être l'occasion de faire preuve de la retenue maximale.
En une du magazine allemand Der Spiegel cette semaine, deux hommes, deux dirigeants que tout oppose, l'ayatollah Ali Khamenei et Benjamin Netanyahou, le guide suprême de la révolution iranienne et le premier ministre israélien, incrusté derrière leur visage une carte de l'Iran et cette question en gros caractères. Est-ce la prochaine grande guerre? Depuis une semaine, la question domine l'actualité internationale. Téhéran et Tel Aviv, les ennemis jurés qui jusque-là se contentaient d'exprimer leur rivalité de manière indirecte, ont-ils franchi un pas décisif vers un conflit armé au risque de déstabiliser tout le Moyen-Orient? Le 13 avril, la République islamique lançait une attaque sans précédent contre Israël, des drones et des missiles en guise de représailles à une autre attaque, celle contre son consulat à Damas en Syrie le 1er avril, au cours de laquelle sept membres des gardiens de la Révolution avaient été tués. Vendredi matin, des explosions sont signalées dans le centre de l'Iran. Selon toute vraisemblance, une riposte de l'armée israélienne. L'État hébreu a pourtant pris soin de ne pas revendiquer cette attaque. De son côté, le régime iranien cherche à en minimiser l'impact, comme si de part et d'autre, il y avait la volonté de ne pas aller trop loin, si tant est que la limite n'ait pas déjà été franchie. C'est en tout cas ce que réclament à corps et à cri l'ONU, le G7, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays arabes ou encore la Turquie. Des appels à faire preuve de retenue de part et d'autre dans un moment de danger maximal, pour reprendre les termes, comme on l'a entendu il y a quelques secondes, d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Bref, à ce stade, il semble que ni l'Iran, ni Israël ne soient enclins à franchir une nouvelle étape dans le conflit qui les oppose, car personne ne sortirait gagnant d'une guerre dans la région. Mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'elle n'ait pas lieu? Et pour commencer, Thomas Gobard, est-ce qu'on peut dire qu'une semaine après l'attaque de l'Iran contre Israël, le monde respire un peu mieux?
Je n'en suis pas sûr. Je pense que vous avez rappelé la chronologie récente. On va pas refaire toute la chronologie, mais il y a quand même une cassure qui est importante à rappeler, c'est le 7 octobre. Et l'attitude de l'Iran derrière l'attaque terroriste du Hamas. En fait, depuis le 7 octobre, l'Iran était dans une position tirer un certain nombre de bénéfices de l'attaque du Hamas, notamment par l'intermédiaire d'autres groupes comme le Hezbollah ou comme les Houthis au Yémen, et sortait d'une certaine manière renforcé. On a eu l'occasion d'en discuter à ce micro. L'attaque du 13 et du 14 avril est effectivement une rupture, parce que c'est la première fois qu'on se replace dans quelque chose d'interétatique et d'une attaque directe venant d'Iran sur le territoire d'Israël. Elle avait été annoncée, donc elle a aussi permis à Israël et à ses soutiens de s'organiser. Et la dernière réponse d'Israël, effectivement, donne l'impression de vouloir être calibré et de ne pas, enfin, de montrer qu'Israël, d'une certaine manière, garde le contrôle de l'escalade. C'est-à-dire C'est-à-dire que le message, c'est que nous aurions pu faire plus et nous ne le faisons pas pour l'instant. Alors, à mon avis, ça pose deux grandes questions, parce qu'il y a, à mon sens, un double arrière-plan. Le premier, c'est l'arrière-plan nucléaire. La doctrine d'Israël est très ambiguë, très peu connue, en fait, par rapport aux autres puissances nucléaires. Et par ailleurs, l'Iran est devenu une puissance du seuil. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de déclarations qui montrent que le programme a avancé. Alors, ensuite, il y a toute la question de la transformation de la matière fissile et sa militarisation, ce qui demande beaucoup d'efforts supplémentaires. Mais il y a aussi un message du seuil atteint en termes nucléaires par l'Iran. Et puis, le deuxième arrière-plan, moi, qui me frappe, c'est que la connexion entre les deux grands théâtres que nous avons, c'est-à-dire la guerre d'Ukraine et la situation au Moyen-Orient, se renforce, à mon avis, de manière visible, avec un rapprochement entre l'Iran et la Russie de plus en plus manifeste, c'est-à-dire que la Russie est soutenue militairement par l'Iran en Ukraine avec les drones, que la Russie a modifié son positionnement par rapport au programme nucléaire iranien et aux négociations qui avaient eu lieu dans un cadre depuis 2003 en se rapprochant de Téhéran. Et il y a une zone de contact, à mon avis, sur laquelle il faut être extrêmement vigilant, c'est ce qui se passe au Caucase, parce que la manière dont les deux théâtres peuvent se réunir un peu plus, dirais-je, c'est par le Caucase, avec à la fois la situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Je note d'ailleurs que l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan a été rappelée, puisque en fait, il y a un soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan pourrait être aussi un des points d'entrée ultérieur, on verra, si Israël décidait d'accentuer sa pression sur l'Iran.
Donc ce que vous nous dites, Thomas Gomard, c'est qu'il ne faudrait pas se réjouir, disons, trop vite, d'une apparente baisse de tension avec et les Israéliens et les Iraniens qui semblent aujourd'hui dire, bah voilà, finalement, on a l'impression qu'en tout cas qu'ils se contentent de leur riposte respective avec la volonté de ne pas aller plus loin.
Bah si on élargit la focale, moi je pense qu'on est dans une situation qui en réalité se dégrade de semaine en semaine. On n'est pas du tout dans une voie de plateau. Alors, ça donne l'impression, parce qu'il y a eu cette réponse d'Israël calibrée. Mais en réalité, quand on élargit la focale, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se constituer entre Moscou et Téhéran. Il y a une attitude de la Chine qui est extrêmement importante aussi à suivre à distance. Et de l'autre côté, ce que l'attaque du 13 et du 14 avril, à mon avis, a provoqué, c'est là où il y avait une sorte de critique de plus en plus vive sur l'attitude d'Israël dans sa férocité, dans sa réponse à Gaza, un soutien à Israël qui est maintenant plus exprimé par des pays, notamment des pays comme la France ou le Royaume-Uni, ayant été agressé sur son territoire par l'Iran. Mais ça, à mon sens, à l'échelle plus large, ça polarise les positions et c'est très préoccupant.
Sylvie Kaufmann, vous partagez cette préoccupation ?
Oui, alors il y a effectivement deux plans, si on peut dire. Il y a le plan rapproché. Alors en effet, comme vous citiez cet élément sonore tout à l'heure d'Antonio Guterres, qui dit nous sommes le Moyen-Orient est au bord du gouffre, et on a l'impression que les deux principaux acteurs, l'Iran et Israël, sont en effet arrivés au bord du gouffre, ont regardé et ont vu la profondeur du gouffre et se sont dit finalement c'est peut-être pas une si bonne idée de plonger. Donc il y a cette retenue dans l'immédiat qui est quand même un grand soulagement, parce que c'est vrai que si c'est cette spirale avait continué, donc cette spirale qui en effet a commencé le 7 octobre mais qui pendant 6 mois a continué par proxy interposé, donc avec les alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah, les houthistes du Yémen, avec l'Israël qui Israël a quand même liquidé, je crois, 17 responsables iraniens en Syrie et au Liban en l'espace de 6 mois. Donc tout ça continue, hein, de toute façon. Et puis le 1er avril, il y a eu donc cette opération israélienne à Damas contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran, contre des responsables des gardes de la révolution iranien. Et le 13 avril, la riposte alors de l'Iran qui a franchi un seuil, c'est-à-dire c'était la première fois que l'Iran attaquait directement l'État d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, je pense, et très révélateur de ce qui se passe après, c'est comment finalement Israël a réussi à repousser cette attaque, c'est-à-dire parce qu'il y a eu plus de 300 drones, missiles, etc., qui ont été tirés sur le territoire d'Israël et qui ont pratiquement tous été repoussés. Et il n'y a eu qu'une petite victime, une petite fille qui a été blessée. Voilà, donc c'est presque miraculeux. En réalité, ce n'est pas un miracle, c'est que tout ça a été très bien préparé. Quand on décortique la manière dont cette opération a été préparée, c'est intéressant parce qu'on voit les éléments de cette diplomatie qui est en train de se nouer. C'est-à-dire que, en fait, dans la foulée des accords d'Abraham, donc normalisation des relations d'Israël avec certains pays du Golfe, impulsée par Donald Trump en 2020, le Pentagone a réorganisé son aide dans la région, la coopération, la défense de la région, et a impliqué certains États arabes dans la coopération sur la défense aérienne d'Israël. Et ça, on a eu la première application, en fait, au moment du 13 avril, c'est-à-dire qu'on a eu la Jordanie
qui
a participé à la défense aérienne, certains pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui ne l'ont pas avoué publiquement, mais qui en réalité ont partagé leurs renseignements avec les Américains pour aider à la défense d'Israël.
Mais est-ce que ça veut dire que finalement il y a une forme de clarification des alliances et des camps qui s'opposent?
Alors, ce que ça veut dire, je pense surtout, c'est que tout ça est une sorte de coalition anti-Iran, hein, c'est-à-dire ces pays du Golfe et ces pays arabes sunnites décident de s'allier. Au risque d'être très critiqués, y compris par leur population, parce qu'ils participent à la défense d'Israël, mais sont prêts à participer à cette défense commune pour faire face à l'Iran, à la menace iranienne. Mais après, est-ce que cela peut déboucher sur une vraie alliance diplomatique? C'est le sens de la tribune d'Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël dans le Monde cette semaine. Il dit finalement, la peur des Perses a pesé plus lourd que la haine des Juifs pour ces pays du Golfe. Hein. Mmh. C'est-à-dire que finalement, bon, ils ont... Mais, et lui, il espère, il émet le souhait que cette alliance militaire se transforme en coalition diplomatique. Et là, je crois que c'est un souhait un peu trop optimiste, à mon avis, parce que le problème, on a réussi à reculer du bord du précipice, du bord du gouffre, mais les problèmes de fond ne sont absolument pas résolus. Et en effet, Israël peut... Netanyahou peut se dire, pour l'instant, je sors de mon isolement, Israël sort de son isolement, a réussi...
Donc je préserve ce capital sympathie.
Voilà, mais en réalité, il ne va pas le garder longtemps, parce qu'il ne renonce pas à l'opération à Rafah, dans le sud de Gaza, et le problème de Gaza reste entier, même si on en a moins parlé ces derniers jours.
Vous évoquiez la diplomatie, Sylvie Kaufmann, Corinne Lepage, on a vu justement une activation d'un grand nombre de chancelleries qui disaient toutes à peu près la même chose, hein, que ce soit côté américain, l'ONU, le G7, la Russie, la Chine, la Turquie, les pays arabes, j'en oublie sans doute, l'Union européenne évidemment, disant attention, il faut tout faire pour aller vers une désescalade. Est-ce que ça a démontré aussi le fait qu'il y a peut-être une puissance de la diplomatie qui a permis, pour l'instant, on verra bien ce qui se passe par la suite, mais en tout cas pour l'instant, d'apaiser un petit peu les tensions au Moyen-Orient?
Alors oui, visiblement, enfin moi je suis beaucoup moins spécialiste que les deux personnes qui viennent de s'exprimer, donc je serais humble et modeste dans mon expression. Mais enfin, je voudrais dire deux choses. Je trouve que la manière dont vous avez posé votre question pour l'émission de ce matin est très bienvenue.
Ah, merci.
Elle est très bienvenue parce que, effectivement, les deux ont deux problèmes majeurs qui, me semble-t-il, les brident. Israël, parce qu'il a un problème d'existence vitale. Israël, c'est quand même le seul pays au monde dont un certain nombre d'États disent qu'il faut le rayer de la carte. Bon, il n'y en a pas d'autre à ma connaissance. Et donc, il y a cette vision de long terme, d'où le problème nucléaire qui était évoqué par Thierry Gomard tout à l'heure.
Thomas Gomard, excusez-moi.
Parce qu'effectivement, les Iraniens ne sont jamais cachés de l'envie qu'ils avaient de balancer une bombe nucléaire sur Israël s'ils en avaient la possibilité. Donc, il y a cette question du long terme. Mais les Iraniens, ils ont quand même un problème interne qui n'est pas mineur. Moi, j'ai été assez frappée de voir un peu partout dans le monde des manifestations avec des drapeaux iraniens d'opposition et israéliens en disant « on est ensemble ». Et donc, la question que je me pose, mais je ne suis pas du tout une connaisseuse de ce qui se passe en Iran, mais ce que j'ai vu, c'est que la police des mœurs s'est renforcée au cours des dernières semaines de manière très sensible, que les femmes non voilées sont de nouveau poursuivies, lapidées et tout le tremblement, voire mises en prison, voire tuées, et que donc la répression s'accroît, et quand la répression s'accroît, ça veut dire qu'en réalité, la pression s'accroît aussi de l'autre côté. Et donc, aller trop loin pour l'Iran lui pose peut-être des problèmes internes que nous mesurons mal, nous, ici, mais à mon sens, qui peuvent exister. D'où l'intérêt qu'ont les deux à montrer leurs muscles, parce que Israël n'existe que par la dissuasion, les Iraniens parce qu'ils veulent être la puissance régionale montante, mais à ne pas dépasser un certain seuil parce qu'ils sont exposés à une question vitale pour les Israéliens. Je ne parle pas de la situation de M. Netanyahou personnel, mais elle est aussi à prendre en considération. Et peut-être aussi une situation vitale pour les Mollahs. Ça, je ne suis pas en mesure de le mesurer, mais je pense que ce n'est pas tout à fait impossible. D'où un article très intéressant de Harari dans le Haaretz d'aujourd'hui, que j'ai lu juste avant de venir, où il dit, mais de grâce, quoi, il y a une possibilité de créer quelque chose, il est sur la même position que Barnaby, en fait, de créer quelque chose sur le moyen long terme, je vous en prie.
Ne gâchons pas cette
chance. Et je pense qu'effectivement, sur le moyen long terme, c'est une chance unique d'Israël d'assurer sa survie, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Enfin, me semble-t-il.
Puisque vous avez eu la gentillesse, Corinne Lepage, de souligner la qualité de la question que nous posons pour ce débat, que je rappelle, Israël-Iran, un conflit perdant-perdant, bah, je la soumets directement, cette question à Brice Couturier. Est-ce que tout le monde aurait à perdre à l'extension du conflit entre Israël et l'Iran ?
J'ai du mal à répondre à cette question parce que je connais moins bien le sujet que Thomas Gomard et Sylvie Kaufmann, moi aussi. Mais par contre, je voudrais répondre à la question que vous posiez précédemment, qui est, y a-t-il un risque d'embrasement et de montée aux extrêmes entre l'Iran et Israël ? Il faut pas oublier, comme le rappelait à l'instant Corinne Lepage, que les dirigeants de la République islamique d'Iran n'ont jamais caché, ils l'affirment de manière régulière, que leur but, c'est de détruire Israël à jamais. C'est l'expression qu'on emploie en Iran, détruire Israël à jamais. Et évidemment, la poursuite de l'arme atomique de la part de ces dirigeants islamistes a un sens très précis qui est de l'utiliser pour détruire Israël qui ne devrait pas exister au Moyen-Orient parce que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État à eux. Alors maintenant, il y a, on l'a souligné à plusieurs reprises, il y a une nouveauté, c'est que le conflit est monté d'un cran avec le tir de 170 drones, 120 missiles balistiques et 30 missiles de croisière par l'Iran sur le sol même d'Israël. Jusqu'à présent, l'Iran s'était contenté d'installer autour d'Israël ce qu'ils appellent une ceinture de feu. Cette ceinture de feu compte comme on sait le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, mais également des milices pro-chiites et pro-iraniennes en Irak et en Syrie, ainsi que les Houthis. Jusqu'à présent, les Iraniens se contentaient donc de travailler par proxy, si vous voulez, pour détruire Israël, commencer à détruire Israël, et ça marchait moins bien. Ils se sont servis du prétexte, effectivement, du bombardement israélien sur une structure diplomatique abritant des dirigeants des gardiens de la Révolution à Damas, pour répliquer sur le sol israélien, ce qui enfreint un tabou. Car il y avait un modus vivendi entre les deux pays qui était qu'on ne s'attaquait pas au territoire de l'autre. En le faisant, les Iraniens ont effectivement déclenché quelque chose de dangereux. Il faut savoir que Biden avait demandé à Netanyahou de considérer que l'échec de cette offensive iranienne sur le territoire israélien, auquel les États-Unis ont beaucoup contribué, mais nous aussi, Français, Britanniques, comme vous l'avez dit précédemment, Biden avait demandé à Netanyahou de s'en tenir là et d'estimer que puisque aucun de ces missiles balistiques n'avait réellement causé de dommages sérieux en Israël, il fallait ne pas répliquer. Les Israéliens...
Qui a priori a été fait. Alors, il y a eu ces explosions dans le centre de l'heure, mais qui ne sont même pas revendiqué par les Israéliens.
Ah oui, mais enfin, les Israéliens, de leur côté, considèrent que ne pas répliquer à cette attaque iranienne sur leur sol serait interprété dans la région par leurs ennemis comme la démonstration que leur capacité de résilience, que leur capacité de représailles serait émoussée. Alors qu'ils ne sont toujours pas venus, soulignons-le, à bout du Hamas à Gaza. C'est pourquoi le gouvernement de crise israélien a opté pour une riposte limitée et mesurée. Comme on l'a dit à Washington, au Pentagone, je cite, il s'agit d'un signal and not a strike, un signal, pas d'une frappe. Elliot Abrams dans Foreign Affairs s'écrit, la question qui se posait aux dirigeants israéliens était à quel niveau fixer la riposte à l'Iran de manière à maintenir la crédibilité de la défense israélienne sans entrer dans un processus d'escalade conduisant à la guerre ouverte. Alors effectivement, ils se sont contentés de détruire un système de radar qui protégeait l'installation nucléaire de Natanz dans la région d'Ispahan, démontrant ainsi aux dirigeants de la République islamique qu'ils sont capables de percer leur défense antiaérienne et que leurs installations nucléaires sont donc vulnérables à une frappe israélienne si jamais Israël décidait d'une telle frappe. Je cite cette fois un proche de Netanyahou qui exprime sa pensée, c'est Nathan Eshel. Il dit « Personne ne veut la guerre avec l'Iran en ce moment. Nous leur avons prouvé que nous pouvions nous infiltrer et frapper leur territoire, pas eux. Ce type de message est plus efficace que les grands discours. Nous avons actuellement mieux à faire, que ce soit à Gaza ou au Liban. » Donc en gros, maintenant, la balle est dans le camp de l'Iran. Est-ce qu'elle va aller monter d'un cran dans l'escalade ou est-ce qu'elle va s'en tenir là, dans la mesure où tout le monde est content que ça s'arrête là, en gros?
Voilà, ne pas vouloir la guerre, ce qui semble être quand même aujourd'hui l'idée la plus largement admise, ne veut pas dire que la guerre n'aura pas lieu. On voit à quel point on est quand même sur une ligne de crête, Thomas Gomard. Est-ce que, par exemple, alors lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé cette semaine d'infliger de nouvelles sanctions à l'Iran, alors notamment à l'égard de l'industrie des drones, l'industrie automobile également, et puis sidérurgique, est-ce que ça consiste à rester là aussi sur une ligne de crête, c'est-à-dire obliger, une forme d'obligation à sanctionner sans, là encore, aller trop loin?
Je pense qu'il y a deux éléments conjoncturels qui ont été évoqués qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier, c'est la situation de Netanyahou, et le deuxième, ce sont les élections américaines, pour vous répondre directement. La situation de Netanyahou, politique, il y a son enlisement à Gaza. Ce qui se passe permet d'une certaine manière de voiler cet enlisement et permet aussi de déplacer la réprobation unanime qui était celle du comportement de Tsahal à Gaza en montrant Israël à nouveau agressé. Et ça, il le fait effectivement de manière assez habile, en dépit de son impopularité politique, de donner l'impression qu'il y a peut-être une coalition qui pourrait être créée, masquant ce que je viens de mentionner précédemment. Mais ça reste très fragile, en fait. Et ça montre aussi à quel point il peut aller dans un sens ou dans un autre. Et à mon avis, avec un soutien de la part des... qui restera très fort de la part des États-Unis, peut-être un peu moins fort de la part des autres, des monarchies du Golfe, compte tenu de leur opinion, ou des Européens. Le deuxième élément, évidemment, c'est la situation avec tout le monde, l'anticipation de l'élection américaine. Pourquoi ? Parce que il y a une autre décision très importante qui a été prise récemment, c'est le soutien américain apporté à l'Ukraine, avec l'aide financière enfin débloquée. Et donc, on a des États-Unis qui recentrent leur soutien à Israël de manière très forte, et également à l'Ukraine, en dépit de toutes les hésitations qu'on a eues depuis janvier 2024. Et ça, c'est très problématique, à la fois pour Téhéran et pour Moscou, parce que ça montre que la dynamique qui était celle de Moscou en Ukraine est probablement à reconsidérer. Alors on va voir, les effets ne se produisent pas évidemment du jour au lendemain en la matière, et également le fait d'apporter ce soutien si fort à Israël et rentre dans le calcul iranien.
Mais pardonnez-moi, Thomas Gomard, c'est-à-dire en quoi l'aide donc décidée hier, dans la nuit au Congrès américain de cette fameuse aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine peut avoir des conséquences sur l'attitude du gouvernement iranien?
Ça précise la position américaine et ça fait que l'exploitation que tout le monde essaie de faire des mois qui précèdent l'élection américaine et la perspective éventuelle de revoir devenir Donald Trump est d'une certaine manière un peu plus balisée, un peu plus bordée. C'est-à-dire que on avait quand même l'impression que Donald Trump était déjà élu en janvier 2024 avec l'arrêt du soutien américain à l'Ukraine. Ça réouvre au fond un soutien très fort et autant sur l'Iran, le soutien de Trump à Israël, à mon avis, sera évidemment très fort. Mais ça, ce que j'essaie de dire, c'est que ça remet les États-Unis dans une position centrale pour les mois qui nous séparent de l'élection américaine. C'est-à-dire que ces mois, à mon avis, ont cherché à être exploités par un certain nombre d'acteurs, dont l'Iran, dont la Russie, probablement aussi la Chine, et que la décision de hier, de débloquer, à mon avis, d'une certaine manière, reborde un peu les choses d'ici l'élection américaine de novembre prochain.
Sylvie Kaufmann, c'est important. Oui. Alors, on sort un peu du sujet sans en sortir véritablement, comme vient nous l'expliquer Thomas Gomard, mais cette décision donc de la Chambre des représentants aux États-Unis de voter cette aide, qui doit encore être validée par le Sénat américain, mais a priori, ça sera une formalité puisqu'il y a une majorité démocrate.
Non, mais on ne sort pas du sujet parce que rappelez-moi votre question qui était si bonne là au début.
Décidément, c'est ma fête aujourd'hui.
Perdant-perdant, hein. C'est
conflit, perdant-perdant.
Voilà. Et en fait, oui, c'est très perdant-perdant. Mais là, je suis d'accord avec Thomas, on a peut-être des États-Unis qui sortent par le haut provisoirement de cette crise. Parce que finalement, Biden, son obsession depuis le 7 octobre, elle était double. C'était d'une part assurer la défense d'Israël, puisqu'il y est totalement engagé. C'est l'engagement des États-Unis, mais c'est aussi quelque chose d'assez personnel pour lui, Biden. Et l'autre obsession, c'était éviter l'embrasement. Donc je pense que par son intervention, il a quand même téléphoné plusieurs fois à Netanyahou. La presse israélienne et américaine dit que en fait Netanyahou voulait riposter en Iran par quelque chose de plus grande envergure et que c'est Biden qui l'a convaincu de limiter les dégâts et d'avoir une réponse plus calibrée. Donc on voit en effet les États-Unis se ressaisir et reprendre leur rôle un petit peu de leader dans ce processus. Donc de ce côté-là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas complètement perdant dans l'histoire, c'est peut-être les États-Unis, mais c'est, je suis d'accord, tout ça est très fragile et on voit bien à quel point toutes ces alliances et ces jeux sont internationaux à la fois au niveau régional et au niveau international sont en plein mouvement et rien n'est encore figé. Et puis on a vu aussi que dans ce processus, dans ces dernières semaines, l'Iran et Israël n'ont pas frappé très fort, mais en même temps ont montré leur capacité. C'est-à-dire que en calibrant leur réponse, ils montrent aussi que s'ils veulent aller plus fort, les deux, et aller plus loin, ils peuvent le faire. Donc on a une situation quand même extrêmement tendue. Et sur l'Ukraine, oui, je pense que ce qui s'est passé cette nuit, ce vote, enfin du Congrès, mais est extrêmement positif parce que l'Ukraine va recevoir cette aide dont elle a un besoin absolument vital. C'est vrai que Zelensky n'arrêtait pas d'appeler au secours ces derniers temps, et parce qu'on voit bien à quel point ils sont en mauvaise posture et la Russie essayait d'en profiter. Je pense qu'on avait atteint un seuil très dangereux en Ukraine, et donc il faut espérer que maintenant l'aide matérielle en armes, puisque c'est de ça qu'ils ont besoin, va arriver dans les temps. Mais si vous voulez, en même temps, là, les États-Unis, le temps qu'ils ont mis et la manière, je veux dire, les circonvolutions et la complexité de ce processus juridique et politique au Congrès pour arriver à voter cette aide, je pense, a quand même été très préjudiciable à leur crédibilité. Ça fait quand même 7 mois qu'on attendait ce vote et le processus, la dynamique politique aux États-Unis n'en ressort pas grandi du tout.
Est-ce qu'on peut se dire que mieux vaut tard que jamais malgré tout, Brice Couturier ?
Ah certes, pendant ce temps-là, les Ukrainiens meurent sur les champs de bataille pendant que les congressistes américains débattent. Mais j'aurais juste revenir un court moment sur l'Iran et sur l'Iran et Israël. Il faut savoir quand même que la disproportion des forces militaires entre les deux pays est largement en faveur d'Israël. L'Iran est sorti très habile, les armées iraniennes sont sorties très très abîmée de leur guerre avec l'Irak, qui a duré quand même une dizaine d'années, qui a été très coûteuse. Il faut savoir qu'ils utilisent des vieux avions américains qui datent de l'époque du Shah d'Iran, comme le F-4 et le F-5 américains, tandis qu'Israël est équipé du F-35 furtif, l'appareil de combat le plus moderne du moment, qui est évidemment américain. Alors évidemment, en face, vous avez les Iraniens ont montré, eux, qu'ils avaient des missiles balistiques sophistiqués, comme le Kaibar, d'une portée de 2000 km, et surtout les drones de combat, qui sont l'instrument, on le voit bien en Ukraine, le plus utile aujourd'hui sur le champ de bataille, comme le Karman 22, d'une portée de 2000 km, qui est équipé de missiles de croisière. Mais enfin, les Iraniens savent très bien qu'en l'état actuel des choses, tant qu'ils, certes, ils sont une puissance du seuil atomique, mais ils n'ont pas encore la bombe atomique, pour l'instant, s'ils déclenchaient une guerre avec Israël, ça serait pas perdant-perdant, ça serait gagnant-perdant, car Israël est beaucoup plus fort. Et comme le dit ce spécialiste dont je parlais tout à l'heure, Elliot Abrams, ce qui fait qu'Israël s'est fait des amis dans le monde arabe ces derniers temps, c'est pas par sa retenue, c'est par sa puissance.
France Culture, l'esprit public, Hervé Gardette.
J'avoue que je vois ça un peu de loin. Après, j'irai certainement voter quand même, mais en soi, ça sera le moins pire et pas le mieux, malheureusement. Je vois, moi, dans mon métier, pour les imports-exports, que les produits bio, par exemple, qu'on n'ait pas les mêmes normes, ça devient une aberration qu'on est en France, on n'ait pas le droit de faire certaines choses, alors qu'à côté, on ait le droit et que ça vienne en France quand même. Donc, c'est assez contradictoire.
J'ai juste écrit sur mon calendrier « voter » et je me soucierai du sujet une semaine avant. Voilà. Mais c'est déjà bien, j'y vais.
Voilà, nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Toute l'Europe attend avec impatience et appétit les élections du mois de juin. Toutes ? Non. Un gros village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'optimisme ambiant. Voilà ce qui ressort du dernier Eurobaromètre, une vaste enquête menée dans chacun des pays de l'Union auprès de 26 000 citoyens. Partout, la part des optimistes quant à l'avenir du projet européen est supérieure à celle des pessimistes. Les premiers sont un peu plus de 60% en moyenne. Partout, sauf en France, le seul État membre où la morosité l'emporte sur la confiance. 52% de nos compatriotes se disent pessimistes à propos de l'Union européenne contre 42% seulement qui affirment le contraire. Alors cette neurasthénie bleu-blanc-rouge n'est pas un scoop en soi. Depuis quelque temps, la France occupe les premières places des pays qui ont le moins confiance en l'avenir. Néanmoins, être à ce point à contre-courant par rapport à nos partenaires européens, voilà qui interroge. Les Français sont par exemple plus nombreux que la moyenne à penser que le rôle de l'Europe est devenu moins important ces dernières années, alors que le contexte international, on le voit chaque semaine, oblige l'Union à se projeter en tant que puissance. Ils ne sont que 27% à avoir une image positive du Parlement européen, contre une moyenne européenne de 41%, alors que le siège du dit Parlement se trouve à Strasbourg. On pourrait ajouter qu'ils ont élu à deux reprises un président, Emmanuel Macron, dont l'engagement en faveur de l'Europe constitue un marqueur fort de son double quinquennat. Et pourtant, l'europessimisme prospère. Alors, ce manque de confiance dans l'Europe masque-t-il un manque de confiance dans la France ? S'agit-il d'un mal français ? Vous me direz si vous aimez également cette question, mais je voudrais qu'on commence. Bah, je vais vous intégrer tiens, dans ce dernier Eurobaromètre, faire un petit sondage très rapide. Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à l'avenir de l'Europe ? Juste
optimiste.
En un mot, optimiste pour Corinne Lepage, Thomas Gomard.
Optimiste pour l'Europe, moins pour la France.
Brice Couturier.
Pessimiste.
Et Sylvie Kaufmann.
Optimiste.
Bon, on va avoir un petit peu de diversité, donc de débat. Je commence à aller la discussion avec vous, Corinne Lepage. La France, seul pays où les pessimistes quant à l'avenir de l'Europe, donc sont plus nombreux que les optimistes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Ça ne me surprend malheureusement pas. Est-ce que ça m'inquiète ? Oui. Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas ? Je pense qu'il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, quand vous regardez les sondages qui sont faits, ou les études d'opinion, plutôt, ce n'est pas des sondages, c'est des vraies études qui sont faites sur la manière dont les gens se disent heureux ou pas dans le monde, on est très mal classé. Un pays comme Israël, qui est pourtant en guerre, il est dans les 5 premiers. Nous, on est très loin. Alors qu'il y a des pays où les choses se passent très mal, qui sont beaucoup plus optimistes que nous. Ça, c'est la première chose. Donc, on a un problème, je dirais, fondamental de rapport à l'avenir qui s'explique aussi peut-être par le sentiment, qui est peut-être une réalité, de dégringolade française sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de tout ce que vous voudrez.
Santé.
Bon, ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est lié, me semble-t-il, à la manière dont la France voit le vote du Parlement européen. Dans beaucoup de pays européens, on envoie au Parlement les meilleurs, des gens qui comptent, qui ont du poids, etc. Chez nous, c'est la course à l'échalote pour attraper les gens qui sont barrés du suffrage universel en France ou qui veulent finir tranquillement leur carrière. Et je ne rappelle pas Madame la ministre de la Culture, lors de son premier mandat au Parlement européen où j'étais, qui nous a tous humiliés en disant... parce qu'elle avait mis son téléphone, qu'elle s'en kikinait, c'est pas le mot qu'elle a employé, et que tout ça n'avait strictement aucun intérêt.
Et je vais quand même me rappeler justement, Corinne Lepage, vous avez été eurodéputée, c'était pas pour terminer votre carrière que vous êtes allée à Strasbourg.
Non, mais moi j'aimais ça. On est quelques-uns, hein. Mais beaucoup, non, très franchement, donc ils sont peu présents. S'ajoute à cela le fait que nous sommes peu nombreux au PPE et peu nombreux au SED, qui sont quand même les deux gros partis phares.
Ah, je rappelle, un PPE, Parti Populaire Européen, c'est la droite, où siègent les Républicains français, et SED, c'est Socialistes et Démocrates, voilà. Où siège le PS. C'est vrai que c'est pas là qu'on a le plus gros contingent français.
Donc, il y en a pas énormément. Par conséquent, effectivement... je peux pas vous dire que on pèse. Enfin, moi, quand j'y étais, il y a très peu de députés français qui réellement, à l'époque, il y avait Cohn-Bendit qui lui avait du poids, mais il y en avait vraiment pas beaucoup qui pesaient. J'ajoute à cela le fait que ils ne travaillent pas énormément. Or, quand on est député européen, c'est un travail à plein temps, si on veut faire son boulot convenablement. Et puis, il y a un troisième volet qui explique, me semble-t-il, cela. C'est que les Français, au départ, ont vu l'Europe comme la France en grand. Parce qu'au départ, on était 6, puis 15. Et les institutions européennes se sont effectivement beaucoup inspirées du modèle juridique français, par exemple. Bon, au fur et à mesure qu'on a grandi... L'Europe a grandi, la place de la France est devenue de moins en moins importante. Et j'ajoute à cela, cerise sur le gâteau, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est la faute de Bruxelles. Toujours. C'est toujours la faute de Bruxelles. Donc, que les gens ne soient pas satisfaits de l'Europe et en aient une mauvaise opinion, c'est franchement pas très surprenant. Je terminerai en disant qu'il y a une chose positive... C'est quand même qu'il y a une vraie demande d'Europe. Oui, dans votre interview, la première, elle disait « c'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes normes partout ». Ça veut dire plus d'Europe. Bon, lorsque on comprend qu'on a besoin d'une défense européenne par rapport à ce qui est en train de se passer, d'une politique étrangère européenne, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que les Français ont quand même pris conscience de tout ce que leur apportait l'Europe et ils veulent pas en sortir. Je veux dire qu'il n'y a pas de Frexit chez les Français, ça c'est pas vrai.
Malgré tout, il y a donc un europessimisme qui est important chez les Français. Thomas Gomard, est-ce que c'est parce que, comme l'expliquait Corinne Lepage, la France a peut-être de moins en moins d'influence au sein de l'Union européenne et que... On déplore quelque part, enfin nos compatriotes déplorent le fait que l'Europe ne soit pas davantage française.
Sans doute, hein, je pense qu'il y a un goût de la France pour les antidépresseurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit des études d'opinion, où je crois que le pays comme le Bangladesh est plus optimiste que la France, bon, il y a quelque chose qui nous est très très propre, que j'expliquerai moi par une grande difficulté à se projeter dans l'avenir, parce que nous aimons tellement notre histoire nationale, en fait. Un peu comme les Russes, d'ailleurs. On est tellement attaché à notre histoire nationale qu'on a, à mon avis, beaucoup de mal à la dépasser et à comprendre les nouvelles échelles, au fond, dans lesquelles la mondialisation nous a plongés. Moi, je vois trois raisons principales pour cette difficulté. D'abord, des raisons structurelles. Vous avez eu cette semaine la publication du rapport, ou peut-être déjà antérieur, du rapport d'Enrico Letta sur le marché unique européen, qui rappelle une chose, à mon avis, indispensable.
Alors, Enrico Letta, qui est l'ancien homme politique italien,
voilà, ancien premier ministre italien, et qui vient de remettre un rapport sur le marché unique européen, et qui rappelle qu'en 1985, lorsqu'il a été mis en place ce marché unique, l'Inde et la Chine représentaient 5% de l'économie mondiale. Voilà. C'est un rappel qui montre qu'en 40 ans, on a complètement changé de dimension et que, d'une certaine manière, la difficulté structurelle, c'est que nous avons un rétrécissement de l'Europe en dépit de son élargissement à l'échelle globale. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je crois qu'il y a des raisons très françaises qui sont les performances économiques de la France au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un rapprochement des trajectoires de la France avec des pays en termes de désindustrialisation, en termes d'endettement avec des pays comme l'Italie et la Grèce. Et donc ça, évidemment, ça crée une très grande difficulté à se refinancer, des écarts qui ont toujours existé, mais qui s'accentuent, et que, à mon avis, les Français comprennent en réalité très bien. Il y a une troisième raison qui est beaucoup plus problématique, c'est une raison politique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ce désamour pour le projet européen s'explique en grande partie par 2005, par la cassure de 2005, et le référendum sur le traité constitutionnel, avec le sentiment d'une partie de l'opinion, à mon avis, à juste titre d'ailleurs, d'avoir été volé de leur vote. Et c'est important de rappeler ça, parce que 2005, c'est juste après l'élargissement de 2004, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi dans le message des électeurs français à ce moment-là, indépendamment de la question sur la constitution européenne, sur le projet de constitution européenne, un message qui était de dire, nous, ce qu'on privilégie, c'est l'approfondissement plutôt que l'élargissement. Bon, ben ce message n'a pas été entendu, et une génération plus tard, on en voit les effets. Et puis, effectivement, un dernier élément, j'en ai annoncé trois, mais j'en rajoute un quatrième dans le prolongement de ce qu'a déjà fort bien décrit Corinne Lepage, c'est, je pense, une attitude en France qui consiste à vouloir faire de l'influence. Le mot influence est désormais au centre du discours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou du ministère des Armées, mais une confusion de plus en plus grande entre l'influence et la communication. Or, l'influence, Corinne Lepage l'a rappelé, bah, ça passe par des carrières parlementaires, ça passe par un investissement, c'est un métier, ça se prépare, ça se travaille sur la durée. La communication, c'est beaucoup plus instantané, et puis effectivement, on a l'impression que avec quelques tweets, on est présent dans le débat européen, c'est pas le cas.
Ça manque aussi peut-être d'incarnation, Brice Couturier, justement. Cette Europe qu'on voudrait peut-être un peu plus française, si tant est que ce soit ça, un des éléments d'explication de cet europessimisme français. Quand on avait par exemple un Jacques Delors qui présidait la Commission européenne, il y avait peut-être un sentiment d'être davantage impliqué dans l'Europe.
Ben, vous savez bien la fameuse blague de Kissinger, quand je veux appeler l'Europe, quel numéro je dois composer sur le cadran. Moi, je voudrais souligner le fait qu'il y a un paradoxe français pour répondre à votre question initiale, qui est que 38% des électeurs sondés déclarent voter en juin pour un parti d'extrême droite anti-européen, 31% pour la liste Bardella, 5% pour celle de Marion Maréchal et 2,5% pour celle de Dupont-Aignan, alors que par ailleurs, 73% des Français se disent favorables au projet européen contre 27% qui se déclarent défavorables selon le sondage Ipsos pour l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Alors, avec cette nuance, vous me direz, c'est que il y en a effectivement la majorité. Alors quand on demande aux Français le même sondage, si on annonçait demain que l'Union européenne est abandonnée, éprouveriez-vous 47% de grands regrets, 23% seulement un vif soulagement et 30% de l'indifférence. Comment faire coïncider un sondage qui vous dit que près de 40% des gens vont voter pour des partis europhobes, eurosceptiques ou europhobes, et que par ailleurs, une grande majorité de la population est attachée au projet européen?
Et comment vous répondez alors justement à ce paradoxe?
Vous avez la réponse dans le même sondage, qui est diffusé par Le Monde d'ailleurs. Si 19% sont favorables au projet européen tel qu'il est mis en place, 54% sont favorables, mais pas tel qu'il est actuellement mis en place. Donc on voit bien qu'en fait, il y a une insatisfaction à l'égard du projet européen. Je dirais par ailleurs qu'il n'y a pas qu'en France que l'extrême droite arrive en tête. D'après un sondage du think tank European Council on Foreign Relations, dont je vais parler, d'après ce sondage, dans 9 pays d'Union européenne, l'extrême droite arrive en tête, à savoir l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de désenchantement, de désaveu envers l'Union européenne. Et les auteurs de ce rapport, Krastev et Leonhard, c'est une étude qui est destinée aux dirigeants, aux leaders européens pro-européens, pour leur conseiller la meilleure campagne de communication possible pour essayer de limiter la casse et de garder la majorité. Parce que si on continue comme ça, le groupe central, comme vous le rappelez tout à l'heure, du PPS, du PS et de Renew Europe risque de ne même pas avoir la majorité au Parlement européen. Ça serait l'extrême droite qui serait majoritaire, vous imaginez ça. Alors, Il conseille Krastev, vous disiez tout à l'heure, et plusieurs d'entre vous ont dit, il y a des succès européens, il faut les mettre en valeur. Eh bien, Krastev et Leonard disent non, vous avez tort, parce qu'en fait, chacune des grandes crises qu'a traversé l'Europe depuis 15 ans s'est traduite par la constitution de ce qu'ils appellent une tribu négative qui s'est constituée à l'égard, à l'époque de chaque crise. Ainsi, la crise financière, les subprimes, eh ben, l'opinion dominante en Europe, dans l'UE, c'est que l'Union a mal géré la crise financière, 41% contre 20%. La crise migratoire de 2015, l'immigration, 60% jugent que la gestion par l'UE a été négative, contre 17% qu'elle a été positive. Le Covid, qui fait partie quand même des grandes, à mes yeux, d'une des grandes réussites de l'Union européenne, pareil, opinion négative, 35%, positif, 31%. Le changement climatique, 61% trouvent que l'Union a mal agi, 25% sont satisfaits. Et le plus récent, c'est la guerre à Gaza, 35% opinion négative, 10% opinion positive. Non, il y a un désenchantement à l'égard de l'Union européenne, et je disais que je le partage. Vous savez, quand je suis revenu à France Culture en 2002, c'était pour créer une émission sur l'Europe, qui s'appelait Désir d'Europe. Ça s'invente pas, non? Moi, j'étais à la fois pour l'élargissement et pour l'approfondissement. Ensuite, ça s'est appelé Cause commune, parce que je l'ai présenté avec une journaliste allemande, Jacqueline Hénard. Et je remarque qu'à l'époque, le modèle européen était dans le monde entier considéré comme un modèle qui pouvait être adapté localement par beaucoup d'autres. Pourquoi aujourd'hui ce désenchantement? Eh ben, pour des tas de raisons. La première, c'est que l'Europe a un temps de retard dans tous les domaines. Il faut s'adapter. Alors ça, c'est le livre de Thierry Gomard que je conseille.
Bon, on va vous rebaptiser, Thomas.
Qui le dit très bien. C'est votre faute.
C'est que
l'Europe a du mal à s'adapter à un monde où la prise de décision est beaucoup plus rapide. L'Europe, c'est une grande machine. Elle est très lente parce qu'il y a des tas d'institutions. Surtout, l'Europe accuse un appauvrissement relatif. Le décrochage par rapport aux États-Unis est spectaculaire. Songez que le PIB par habitant en Union européenne représente plus que la moitié de celui des Américains et que le PIB de l'Union européenne représente 15% du PIB mondial contre 25% pour les États-Unis. Donc il y a un décrochage qui s'explique par des tas de raisons, par la baisse de le recul de la productivité en Europe et surtout, je voudrais souligner, les coûts de l'énergie qui en Europe découragent les investissements, qui font qu'aujourd'hui les Allemands eux-mêmes délocalisent aux États-Unis parce que l'énergie y est bon marché. 120 milliards d'euros l'année dernière ont été investis par les Allemands aux États-Unis. C'est un drame et ça c'est la faute du Green Deal.
Avec tout ce que vous venez de nous expliquer, Brice Couturier, on comprend mieux la réponse à ma question initiale. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste quant à l'avenir de l'Europe? Vous nous aviez dit que vous étiez pessimiste. Vous avez dit l'inverse, vous, Sylvie oui. Kaufmann. Alors, vous ne partagez pas ce désenchantement à l'égard de l'Union européenne?
Non, je ne dois pas être assez française peut-être, mais... Je ne me plongerai pas dans les causes profondes de ce pessimisme intrinsèque à l'identité française en réalité parce que c'est trop complexe, mais c'est vrai que sur l'Europe il y a à la fois un pessimisme et cet attachement que vous avez tous décrit qui est aussi très réel et tout à fait confirmé par toutes ces études d'opinion. Mais la comparaison que faisait Thomas Gomard tout à l'heure avec le Bangladesh qui est beaucoup plus, les Bangladeshis sont beaucoup plus optimistes que les Français. Il y a une raison aussi pour ça. Et alors le groupe d'études ou de recherche, de réflexion, Le Grand Continent vient de publier son troisième volume là sur l'Europe qui est très intéressant, Portrait d'un monde cassé. Et j'ai trouvé cette phrase dans un article du grand écrivain espagnol Javier Cercas. Il dit nous savons une phrase qui va vous éclairer un petit peu sur ce sujet. Nous savons que l'Europe a été pendant des siècles le centre du monde, mais nous savons aussi qu'elle ne l'est plus. Et il ne se passe pas un jour sans que l'on nous répète que la seule chose qu'il nous reste à faire à nous, Européens, face à la poussée des grandes puissances émergentes, c'est de nous morfondre comme des nobles ruinés au milieu des ruines de notre glorieux passé. C'est un non-sens, nous ne devons pas succomber à ce pessimisme. Et voilà, et ça, c'est, je pense que c'est une des raisons de notre pessimisme, c'est qu'on passe notre temps à regarder notre passé qui était en effet glorieux, et l'avenir peut aussi l'être, mais d'une manière tout à fait différente. Les Bangladeshis, eux, effectivement, l'avenir ne peut être, je pense, que meilleur pour eux. C'est pour ça qu'ils sont... je suis optimiste, hein Je vois Corinne qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Oui, ça peut toujours empirer.
Je dirais pourquoi tout à l'heure.
Mais voilà. Et donc, ce qu'on voit, il y a ce sentiment de déclassement dont les Français parlent en permanence et dont les études d'opinion parlent en permanence. Donc déclassement qui est un sentiment profond dans une grande partie de la société française et qu'on appelle aussi décrochage au niveau européen, c'est-à-dire l'Europe décroche par rapport aux États-Unis et par rapport aux puissances émergentes, notamment la Chine.
Avec néanmoins, quand même, comme je le rappelais au début, c'est-à-dire un président de la République élu à deux reprises,
oui,
et qui a vraiment affirmé un attachement à l'Union européenne, oui, extrêmement fort.
Voilà, et ça colle avec cette autre indication des études d'opinion, qui est que les Français sont attachés à l'Europe. Ils voient quand même leur avenir au sein de l'Europe, et ils voient l'Europe comme un moyen d'améliorer les choses. Mais ce qui se passe, c'est que cette Europe était conçue dans les années 50, et c'était le 20e siècle. Et elle a évolué, bien sûr, elle s'est élargie, mais elle reste quand même beaucoup figée dans ce processus de décision et dans son organisation dans ce 20e siècle. Et alors Thomas citait tout à l'heure Enrico Letta, qui a donc remis cette semaine son rapport sur le marché unique, dont il dit qu'il faut absolument le faire évoluer de manière très profonde, notamment avec cette union des marchés de capitaux dont on parle depuis 10 ans et qu'on n'arrive pas à faire et apparemment qu'on a encore du mal à faire. C'est pas l'union des marchés de capitaux qui va faire rêver les gens, je suis d'accord, même si c'est un outil absolument indispensable. Mais il y a un autre Italien qui a dit des choses cette semaine très intéressantes, c'est Mario Draghi.
Et il a ancien patron de la BCE.
Ancien patron de la BCE, lui aussi ancien Premier ministre. Un Européen très convaincu et je pense un homme politique respecté par la majorité des gens, je crois, en Europe. Et alors, et lui aussi est chargé d'un rapport qu'il va remettre en juin sur la compétitivité de l'Europe. Et dans ce discours qu'il a prononcé en Belgique, mardi, il dit « Un changement radical est nécessaire parce que l'Union européenne est conçue pour le monde d'avant. » C'est-à-dire nos processus de décision, nos modes de financement, notre organisation sont faits pour un monde pré-Covid, pré-Ukraine, pré-ascension de la Chine. Et il faut absolument déflagration au Moyen-Orient, etc. Et il faut ça a été conçu dans un environnement international finalement assez inoffensif, ou qui était basé sur le respect des règles internationales, où il y avait un ordre international. Et cet environnement a explosé. Et donc, il faut absolument que l'Europe se mette à jour, se protège ses industries, investisse beaucoup plus dans l'innovation, dans la recherche, trouve un remède à la fragmentation. C'est ça aussi, c'est que il y a des, par exemple, vous prenez l'industrie de la défense. Les pays européens ont des industries de défense formidables, extrêmement performantes, etc. Mais ce marché est totalement fragmenté et ces industries, en fait, s'entretuent à l'exportation vers les pays du Golfe, vers l'Asie, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, où on a la guerre sur notre continent, on est incapable de fournir des munitions à l'Ukraine, alors que nous avons ces industries de défense. Voilà, donc il y a, je pense, une sorte de révolution à faire. Et Draghi dit qu'il faut le faire avec la même ambition que celle de nos pères fondateurs il y a 70 ans. Et ça, je pense que ça pourrait redonner confiance aux Français dans l'Europe.
Sauf que cette révolution vers, disons, alors davantage d'intégration et moins de fragmentation, est-ce qu'elle peut passer avec notamment le nouveau Parlement européen? Alors on va bien sûr voir ce que vont donner ces élections, mais c'est vrai qu'on le répète hein, là aussi régulièrement, c'est-à-dire que les sondages donnent quand même aux partis populistes et souverainistes un net avantage aujourd'hui, Corinne Lepage. Donc cette déflagration, elle risque peut-être d'aller dans un sens qui n'est pas celui que vous évoquez aujourd'hui autour de cette table.
C'est vrai. Il est très probable que le parti central, ça va être le PPE. Dans le prochain Parlement. Parce que vous allez avoir une droite, extrême droite, qui va être très forte, l'ordre de 30% du Parlement. Il faut bien comprendre que... je voudrais juste dire quelque chose sur le mode de fonctionnement du Parlement. Bien sûr, les groupes politiques, c'est très important, mais les nationalités, c'est très important aussi. C'est-à-dire que vous avez au sein de chaque groupe politique une forme de fragmentation en fonction de la nationalité. Et donc, les majorités, elles se construisent, bien sûr, par groupe politique, mais au-delà, en allant chercher dans d'autres groupes que ceux qui sont centraux, les voix qui vont être nécessaires pour faire passer tel ou tel projet. Donc ça, il faut comprendre ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous allez, je reviens à mon point. Le PPE va très certainement être renforcé parce que l'Europe est quand même assez à droite, plus qu'à gauche. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une majorité PPE extrême droite ? Aujourd'hui, dans les études qui sont faites, c'est non. On est à 46, 47, mais on n'est pas à 50. Donc la majorité, elle reste PPE, SD et Renew, qui va être probablement réduit, comme les écologistes vont être réduits. Mais la majorité, elle est encore là. Si elle est encore là, ça veut dire qu'il y aura une très forte influence du PPE, qui va être probablement le parti le plus important de tout cela. Mais enfin, on peut espérer quand même une évolution positive. Si en revanche, malheureusement, ça tombait de l'autre côté, là, à mon avis, tout est possible. Ça, c'est un point que je voulais aborder. Deuxièmement, je partage tout à fait ce qu'a dit Sylvie Kaufmann. Il y a une forme de bisounours. Enfin, je suis désolée du terme, mais c'est un peu ça. Moi, je me souviens de m'être beaucoup battue sur les questions d'application de la concurrence. On a une application des règles de concurrence en Europe qui, à mon avis, est très contre-productive parce qu'elle se fait contre nous. Contre nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de construire...
Quand vous dites contre nous,
les Européens. Chaque fois qu'on essaye de construire quelque chose d'un peu puissant pour répondre aux autres, non, parce que c'est contraire au droit de la concurrence. Je pense qu'il faut qu'on revoie cette conception du droit de la concurrence. Je prends cet exemple-là parce que ça nous a fait faire des bêtises énormes. De même sur l'attitude vis-à-vis de la Chine. Quand, autour de 2010, on a vu l'invasion, si j'ose dire, de panneaux solaires, moi je ne partage pas du tout le point de vue de Brice sur le Green Deal, mais l'invasion des panneaux solaires et des éoliennes qui ont fiché en l'air l'industrie européenne, on n'a pas voulu mettre en place des outils qu'on aurait parfaitement pu mettre en place. Donc oui, on a quelque chose à reconstruire qui s'apparenterait un peu à l'IRA, qu'a fait Biden aux États-Unis, mais je dirais que dans
l'IRA, c'est l'Inflation Reduction Act, un vaste plan d'investissement, notamment pour l'industrie automobile.
Mais je dirais que c'est un peu ce qu'on a fait avec le Green New Deal, où quand même vous avez des fonds absolument colossaux qui ont été mobilisés tant par la Commission que par la BCE, précisément pour transformer notre modèle industriel. Donc, il y a des choses qui se font, il faut les faire plus vite, et ça repose la question des institutions, sauf qu'on ne peut pas y toucher, en réalité. On ne peut pas toucher aux traités. Donc, on est coincé avec nos traités. C'est ça, en fait, le vrai sujet. Qui va pouvoir remettre en cause les traités pour avoir des règles de majorité au lieu des règles d'unanimité, des choses comme ça, vous voyez ?
Thomas Gomard, pour terminer.
Bon, beaucoup de points négatifs ont été relevés. Il y a un point positif que je voudrais relever pour finir dans la perspective des élections du 9 juin. C'est qu'on a quand même, de mon point de vue, un espace public européen qui se construit. C'est-à-dire qu'on est quand même, les uns et les autres, tous de plus en plus attentifs aux évolutions politiques chez nos partenaires, que ce soit évidemment en Allemagne, en Pologne, tous les énumérer. Et de ce point de vue-là, je pense que cette dimension, en fait, c'est l'apparition d'une sorte de débat public européen qui va dans le sens d'une, je ne sais pas si le terme intégration est le bon, mais à minima d'une meilleure coordination, à mon avis, de nos débats nationaux.
Vous êtes d'accord avec ça, Brice Couturier ?
Un petit sondage pour finir. À la question, que jugez-vous prioritaire ? Réduire les émissions de carbone ou réduire les prix de l'énergie ? Réponse globale des citoyens de l'Union européenne, l'énergie d'abord, 41%. Réduire les émissions de carbone, 25%. Seule la Suède et le Portugal placent la réduction des émissions de carbone avant les prix de l'énergie. C'est pour ça, quand je dis que le Green Deal va permettre à l'extrême droite de faire une poussée fantastique au Parlement européen, je me base sur ces chiffres-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Sylvie Kaufmann, Corinne Lepage et Thomas Thierry Gomard. On reste sur Thomas.
Steve Gardette, à bientôt.
Merci à
et
tous
Brice
les quatre.
Brice Couturier, vous l'avez oublié.
Ah oui, c'est vrai. On ne fait plus tellement la confusion avec vous maintenant, hein, Brice. Émission préparée par Anne-Claire Bazin, comme chaque semaine, réalisée par Luc Jean Reynaud. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Sébastien Royer.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
La Hulotte, vous connaissez ? C'est le journal le plus lu dans les terriers. Un magazine naturaliste français dont les lecteurs, répartis dans une soixantaine de pays, forment une sorte de confrérie secrète d'amoureux de la nature. Une histoire particulière, les 50 ans de la Hulotte, de Federico Polo Devoto, réalisé par François Test, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture présente L'homme aux mille visages, un film de Sonia Kronlund inspiré d'un épisode des Pieds sur Terre.
Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo et qu'il était brésilien.
Lui, il était argentin, il a travaillé dans le télécom,
ingénieur chez Peugeot, photographe, médecin.
Une passionnante enquête sur une imposture amoureuse.
Je veux le retrouver, comprendre comment tout a commencé.
L'homme aux mille visages, un film de Sonia Kronlund, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Et sur France Culture, il est midi, c'est l'heure de retrouver les bonnes choses avec vous, Caroline Brouet. Bonjour Caroline.
Bonjour Hervé.
Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ?
Les saveurs algériennes. Vous savez, le ramadan a fini il y a une dizaine de jours, donc maintenant on peut se lâcher et on peut déguster ces saveurs algériennes. Nous avons trois invités autour de la table avec nous et je vous souhaite un excellent dimanche.
À vous aussi.
Merci. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et ce midi, on zoome sur les saveurs algériennes, une cuisine qui reste étonnamment méconnue en France, peut-être victime d'une réputation trop riche ou du fait de l'histoire compliquée entre les deux pays. En tout cas, une cuisine de métissage aux accents multiples, berbères, sahariens, arabes, kabyles.